On est dans une paracha qui fait suite à d'autres parachas. Et c'est étonnant comment la paracha aujourd'hui, celle qui traverse le temps et qui arrive à notre temps, parle de notre temps. Et nous amène à voir que ce qui pourrait être considéré comme un simple rappel, une mémoire historique d'une fête qui s'est appelée Pessah, n'aurait pas d'importance dans l'aujourd'hui. Et c'est carrément l'inverse. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, même des juifs parfois, ont une ignorance de la vraie signification de Pessah. Ils pensent que c'est seulement lié qu'à un seul événement, ce qui les intéresse le plus, et que tout le reste n'a aucune importance, est à mettre de côté. C'est pour les juifs, il y a une Pâque juive, il y a une Pâque chrétienne, donc pour les juifs, laissons-les faire le céder avec la Haggadah. Pour le chrétien, eh bien, il y a un autre calendrier, et qui ne correspond pas du tout à celui que Dieu a établi dans la Bible. Et qui est malheureusement quelque chose qui a amené la rupture dans l'histoire. Et pour aller juste un peu plus loin, c'est clair que j'ai été très troublé, mais travaillé par la paracha dans mon cœur, ma réflexion, parce qu'elle nous amène à aller plus loin dans la compréhension. Elle nous amène à voir aussi beaucoup plus loin et de pouvoir nous détacher totalement d'un certain nombre d'éléments humains pour entrer véritablement dans l'appel et la vision de Dieu, de pouvoir réellement établir quelque chose qui soit dans une cohérence mais également réalité de vie avec Dieu et de comprendre le pourquoi de certaines choses. C'est que ce qui deviendra Pessah a commencé dans les premiers chapitres du livre des Shemot, autrement dit de l'Exode. Pessah est lié à ça. Mais pourquoi? Parce que dans la paracha Vayera, quand il est dit « Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai » ici, il y a quelque chose. Donc c'est dans le chapitre 6 hein, de Shemot que je crois a été lu tout à l'heure, et le verset 2. Et il y a un mystère. Il y a un mystère rien que dans ce verset. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Je n'ai pas pu aller plus en profondeur sur certains points. Je vais donc juste le mentionner. Parce qu'avant que Dieu puisse dire « Vaera », il dit ça, « Vayedaber ». Et il parle à Moshe. Mais quand il parle à Moshe, le mystère va résider dans le fait qu'il va lui dire « Sache que je suis Dieu ». Alors on peut se poser la question, mais est-ce que Moshe n'avait pas compris que Dieu était Dieu? Ce Dieu qui lui parle là maintenant était Dieu. Le buisson ardent n'était-il pas suffisant? Dieu lui révèle son nom. Il y a Chérié, quatre lettres. Yod, He, Vav, He. Dieu lui a parlé, Dieu l'envoie pour délivrer le peuple sous l'esclavage, l'amener à la libération de l'Égypte, ce qui formera la fête de Pessah, et qui en même temps est la rédemption. Alors est-ce que Moshe avait besoin d'entendre réellement que Dieu est Dieu? Et pourquoi? Et pourquoi? Et donc, si on veut simplement donner une petite réflexion, Dieu dit, l'Égypte a des dieux. L'Égypte a des milliers de dieux. Il y en a 10 principaux. 10 qui maintiennent totalement le pays d'Égypte dans quelque chose où ils ne peuvent pas y échapper. Et même Pharaon pensait qu'il était l'un de ces dieux. Et là, Dieu lui dit, je suis, Anochi. Alors là, c'est à nous. Mais il faut comprendre que ce « je suis Dieu » va venir trois fois, à plusieurs endroits, pour dire qu'il l'est, et qu'il est l'existant, qu'il est le seul Dieu réel qui existe. Ce que le texte veut dire, c'est que le reste, ce sont des divinités, ce sont des fabrications humaines, qui sont malheureusement forgées à la base par la superstition, la peur des éléments naturels, la peur du prochain, les craintes et tout un tas de choses qui les ont amenés à, entre guillemets, inventer des dieux de pierre, de bois, et également à donner aux astres un pouvoir. Et quand Hachem dit à Moshe, Ani Adonai, je suis Dieu, il dit, je vais les combattre. Je vais combattre ces dieux pour libérer Israël, pour libérer les Juifs, pour libérer les esclaves hébreux. Je dois d'abord combattre les superstitions et les divinités, les pouvoirs de la temporalité. Donc là, on peut le comprendre, car ce que Dieu est en train de dire, c'est que lui seul demeure éternellement. Quand il dit « je suis Dieu », c'est-à-dire qu'il est celui qui est et qui demeure éternellement, et que personne d'autre ne demeure éternellement, que tout le reste est temporel, tout le reste a une fin, tout le reste a une finalité. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre. Alors, dans la paracha, pour aller juste un peu plus loin, là j'ai juste un peu soulevé comme ça, mais il faut comprendre que tout est écrit dans la Torah, le passé, le présent et le futur. Que la Torah, ce n'est pas simplement le livre des Juifs, que ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans les synagogues des Juifs et dont les autres n'ont pas besoin parce qu'ils ont un Nouveau Testament. Il faut comprendre que Nouveau Testament sans Torah, ça vaut rien. Point. Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement sans base. Et il n'y a pas d'explication à un certain nombre de choses si on ôte la Torah. Et que c'est vraiment très important d'avoir cela dans la tête, que dans la Torah, Dieu a tout écrit. Tous les événements y sont contenus. Alors bien sûr, il y a le sens visible premier, et puis plus on va dans la profondeur, chaque mot, chaque lettre de Shemot nous amène dans la découverte d'un mystère qui va encore plus en profondeur. Et c'est pourquoi c'est interminable. On pourrait dire, l'année dernière on a fait une paracha, on a parlé sur Vaera, donc c'est bon, c'est fini, on connaît Vaera, on connaît Shemot, on connaît le chapitre 6, le 7, le 8, le 9, il n'y a pas besoin. Et là, on refait une paracha Vaera. Et dans la paracha Vaera, on va retrouver des choses nouvelles, des choses différentes, des choses extraordinaires. Et on va se dire, mais quelque part, mais c'est vrai que ça concerne nos époques, ça concerne nos vies, ça concerne notre présent. Alors si ça concerne notre présent, la réflexion dans la Torah, hein, c'est celle-ci. Si ça concerne notre présent, ça veut dire que le futur s'implique. Si nous sommes concernés dans le présent, ça veut dire que le futur a une raison d'être. Mais également que nous avons besoin de comprendre. Parce qu'autrement, on va combattre quoi, qui, comment? Uniquement par des mots, par du verbal. On va uniquement faire des cris. On va uniquement lever des mains. On va uniquement faire du bruit. On va combattre contre qui? Aujourd'hui, il nous faut comprendre que même si la tefila est la colonne vertébrale spirituelle, elle est fondamentale, importante, mais il ne faut pas non plus être aveugle sur ce qui se passe. Et que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Alors, dans Shemot au chapitre 6 et le verset 5, il est dit, j'ai entendu, j'ai vu, et je suis descendu pour les libérer afin que je sois leur Dieu. Par rapport à tous les autres dieux. Alors, c'est comme cela que ça va commencer, finalement, l'histoire la plus extraordinaire de toute l'humanité, de tout l'univers. Parce qu'elle commence par une délivrance. Elle va commencer par un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose qui n'a pas son pareil. Quelque chose qui ne peut pas être identifié à un autre événement dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre culture. Cet événement, il faut le vivre comme étant un événement unique et purement unique. Parce qu'elle parle effectivement de la délivrance du peuple juif. Et le peuple juif, on en parle encore aujourd'hui, du peuple juif. Et nous savons que des événements qui sont de toute façon contenus dans les prophéties concernent le peuple juif, la terre d'Israël. Et l'avènement des temps de la fin, qui nous amène pas seulement dans la guerre de Gog et Magog, mais qui nous amène dans la réalité du règne du Messie. Donc si on n'a pas la compréhension, on va occulter quelque chose parce qu'on va oublier que s'intercale un événement dont je vais taire le nom, un événement que l'on va découvrir. Et il nous faut bien saisir que la guerre de Gog et Magog, à l'unanimité rabbinique, ce n'est pas seulement la déduction des rabbins intellectuellement, c'est de chercher la compréhension du code. De même que quand on lit dans la Bible Zadokan, on va trouver dans les Tehillim le code de Yaakov. La traduction littérale des fois que l'on a dans Zadokan est excellente. Pas toujours, mais en règle générale, elle est excellente. Et quand on lit dans la Bible Louis II, le mot code de Yaakov, il est absent. Donc on parle d'autre chose. Et ce qui fait que notre lecture passe rapidement et elle ne s'arrête pas à l'essentiel de la signification, du sens de la phrase ou des mots. Et on a besoin justement de revenir à ça. Donc Gog, il faut comprendre ONU, Amérique, etc. Et Magog, et regardez bien, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, juste un petit rappel pour certains, c'est tout ce qui concerne actuellement le conflit et qui a commencé, il faut bien le savoir, hein, tout ce qui se passe actuellement a commencé par le conflit Turquie,
Russie,
ou l'ex-URSS, et que ça va s'intensifier, et que c'est les ennemis du Nord, lisez bien les prophéties, l'ennemi vient du Nord. Et c'est pas mon thème hein, aujourd'hui, mais juste vous donner une idée que les événements se réalisent. On peut les regarder comme tout le monde à la télé, commentés par les journalistes, avec des analyses de toutes sortes, et ne rien comprendre à ce qui se passe, ni dans le pourquoi, ni dans le fondement de cette haine. Alors on peut dire, oui, bien sûr, c'est dans cette période, c'est quelques fanatiques un peu dérangés et qui ont eu des accidents de poussette petits et ils en sont pas remis. Et finalement, tout ça, c'est rien. Alors on écoute les commentaires, les analyses et vas-y, à longueur de journée, en boucle, et te passe le même truc et machin. Puis les gens, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Et ils ne réalisent pas à quel point ce qui se passe avec la Turquie, l'Iran, l'Irak et... J'avais pas prévu ça. L'Iran, l'Irak, la Turquie et l'ex-URSS est importante dans la compréhension. Il ne faut pas oublier non plus que l'Iran est allié de l'ex-URSS. Alors, ce tableau est un peu comme ça. Et il nous faut comprendre maintenant que si cet événement qui a eu lieu et ce chapitre 6 qui est là nous indique que Dieu va intervenir dans l'histoire des hommes. Mais que son intervention ne va pas laisser indifférent n'importe quel homme dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, il faut comprendre que la base même de cette délivrance, ce n'est pas simplement parce que Dieu a eu pitié d'une poignée de gens qui souffraient injustement. Ça, il faut sortir du concept philosophique humaniste. Il faut sortir d'un certain nombre de principes qui nous sont ancrés, où on trouve injuste ce qui arrive à l'autre, ou à des pays, ou des choses que l'on ne comprend pas et que l'on commente. Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Il y a quelque chose qui fait que si Dieu intervient, s'incarne dans l'histoire des hommes, c'est parce qu'il y a une raison réelle à cela. Et que cette raison, elle est liée à quelque chose qui forme même la paracha. Et le but de la paracha Vaera, ça a été celle de l'alliance avec les pères. La promesse qui a été faite. Donc, de la promesse, Dieu passe à ce qui s'accomplit. Et de ce qui s'accomplit, ça va aller jusqu'au Mashiach, et du Mashiach jusqu'à son règne. C'est ça la réalité. Et que ce n'est pas simplement voilà, Seigneur, délivre-moi des méchants monsieur, madame, qui dit des choses sur moi, et puis et vous savez, tout le monde est très fort dans le gnagnagn. Ça, j'ai même pas besoin de faire une yeshiva. Un truc, et vous l'avez acquis. On n'a pas besoin d'apprendre ces choses. Par contre, pardonner, ça demande énormément d'efforts. Aimer, pareil. Maîtriser son lashon hara, sa médisance, sa relation avec l'autre, nécessite des efforts. Mais pour le reste, on n'a pas besoin d'apprendre. On le fait naturellement. Alors, ce n'est pas de cette délivrance-là que Dieu est en train de parler, là. Il parle de cette alliance qui a été faite avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et de cette alliance qui a constitué les promesses. C'est que Dieu, quand il précise dans ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est qu'il est apparu à Abraham, il est apparu à Jacob, il est apparu à Yitzhak. Il aura parlé, il a été en quelque sorte, sous différentes manières et formes, visible. Mais il n'a pas donné son nom. Il n'a pas dit qui il était. Il a dit qu'il est Dieu. Mais il n'a pas dit quel Dieu, quel est ton nom. Comme lorsque Moshe, interpellé par le buisson, lui dit, mais quel est ton nom? Il veut savoir quel est le nom de cette puissance. Dieu n'a pas donné le nom au Père, mais il le donne dans le cadre très précis de ce qui va devenir la libération de l'esclavage. Et elle est tenue par l'Alliance. Il n'y aurait pas eu la délivrance seulement pour une cause humanitaire. Il y a délivrance, libération de l'Égypte pour une cause spirituelle, pour une réalité qui n'est pas seulement dans leur présent, mais qui est très loin dans le futur. Alors, il faut savoir que c'est la base non seulement de toutes les délivrances, et que cette délivrance qui va se manifester, elle va nous amener à réaliser. Alors, je préfère être honnête avec vous. Il faudrait, si on veut développer rien que la paracha avec un peu de ce qui s'est passé dans les autres parachas, il nous faudrait 5 jours à raison de 6 à 8 heures par jour. Donc, vous comprenez que là, je vais donner plus une compréhension. C'est un exercice, ce n'est pas évident. Mais donner une compréhension. Car je me suis rendu compte qu'on passe très vite sur certains types d'événements et que finalement on leur donne une interprétation personnelle. Et il faut arriver à pouvoir dire ce que Dieu dit, pas ce que j'ai envie que Dieu dise, ou de faire dire ce que j'ai envie de dire sur un verset de la Bible, et qui est purement émotionnel. Il nous faut l'honnêteté, la droiture, l'intégrité au texte. Il nous faut aller plus loin que simplement le verbal, le sentiment, l'émotion, et aller dans la profondeur, car c'est là qu'émet ce qui est vrai, ce qui est réel. Alors, ce qui va précéder, pourquoi Dieu fait ça, et pourquoi Dieu dit « Je suis Dieu », c'est parce que tout de suite, il va dire qu'il va envoyer 10 plaies à un pays. Un pays qui s'appelle l'Égypte. Et qui deviendront tout simplement les 10 plaies d'Égypte. Et c'est étonnant parce que la paracha Vaera ne contient pas les 10 plaies. Elle contient 7 plaies. Et 3 seront dans l'autre paracha, c'est-à-dire la semaine prochaine, dans la paracha Bo. Et on aurait pu dire, mais logiquement, mathématiquement parlant, eh bien, Dieu annonce 10 plaies, c'est le chiffre 10, point final. Pourquoi faire 7 et 3 pour donner 10? Pourquoi 7 plaies et pourquoi 3 plaies? Alors, 7 plaies vont concerner un certain nombre de choses et 3 plaies vont concerner une dimension extraordinaire. Mais comme c'est la semaine prochaine, je ne vais pas en parler. Et que ces plaies vont être annoncées au minimum. Ça, il faut le savoir, parce que je me suis rendu compte que des gens pensent que Dieu parle, ça se... tout s'enchaîne. Les plaies ont été annoncées, en règle générale, au moins 3 semaines à l'avance. Alors là, il y a quelque chose. 3 semaines à l'avance, Moshe va se présenter à Pharaon et lui annoncer la première plaie. 3 semaines, ça donne le temps de la réflexion, d'avoir du recul, de ne pas être simplement dans la surprise, dans l'émotion, dans la peur, dans la crainte. C'est quelque chose où on peut avoir du temps pour réfléchir. Et que toutes les plaies d'Égypte vont durer un an en tout. Alors 3 semaines qui vont servir normalement à Pharaon de pouvoir être au clair sur la volonté de Dieu. Il y a un mystère dans cette paracha Vaera parce qu'elle nous amène aux 7 plaies et nous pouvons dire que la base de ces 7 plaies, elles sont la structure du monde. Elles sont la structure du monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on étudie dans la pensée d'Israël? C'est que la structure spirituelle du monde n'est pas liée à des choses physiques et temporelles, mais bel et bien à des choses qui vont au-delà du visible, au-delà de l'intelligence humaine, au-delà de la compréhension humaine. Et que, quelque part, ce que Dieu va faire va devenir la réalité éternelle de la rédemption. Et que tout ce qui va arriver va être quelque chose qui va marquer l'humanité dans son ensemble. Et donc, il nous faut comprendre que dans la paracha Vaera, il y a ce chiffre 7. Alors, je ne vais pas le développer parce que ça nous amènerait trop loin, mais il faut comprendre 6 plus 1. C'est Vav et Aleph. Et ça forme le chiffre 7. Sur la base du chiffre 6, sur la base du sixième jour, sur la base de quelque chose qui touche un ensemble de choses. Et 7, quand on le voit, il forme la semaine complète. Mais on va aller un peu plus loin. C'est que lorsqu'on est dans la lumière du Mashiach, si j'étais en tant que juif, je reviendrais uniquement un juif rabbinique, uniquement dans la chassidoute et les autres choses, je ne mentionnerais même pas ce que je vais dire. Je serais en train de commenter ce que je viens de faire avec plus de profondeur, avec un certain nombre de codes, mais ça s'arrêterait là. Mais il n'y aurait pas la dimension du nom du Messie. n'y aurait pas la révélation de la personne du Mashiach. Il n'y aurait pas la compréhension de celui qui va véritablement régner et qui a une identité. Alors, ça nous amène à réaliser qu'il y a des écrits dans la Bible extraordinaires. Parce que ce chiffre 7, si on veut approfondir la compréhension, il faut dire que ce n'est pas du hasard. Dieu n'a pas donné des chiffres par hasard. Il y a un calcul, il y a un math, il y a quelque chose qui est lié à cette logique. Et en même temps, j'ai voulu voir ce chapitre 6 de Shemot, Vaera, et j'ai voulu voir l'ensemble des lettres dans l'Apocalypse, qu'on appelle le livre de la Révélation. Le livre par excellence de la fin du monde, de la fin des temps, de tous les événements, le livre le plus mystérieux, le livre le plus codé, le livre le moins accessible à beaucoup de croyants, tellement il y a de symboles, de langages, de choses, et on s'y perd. Et pour beaucoup, même, il a été quelque chose de pas du tout important, c'est de la métaphore. Et pourtant, quand on commence à regarder entre Vaera et le livre de la Révélation qu'on appelle Apocalypse, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que, inévitablement, ça nous renvoie à Daniel. Inévitablement, ça nous renvoie à Ézéchiel, le prophète. Et là, on aurait des semaines d'études dans ce parallèle. Parce que tellement c'est profond, les 70 semaines de Daniel, et de comprendre un ensemble de choses dans le déroulement des temps de la fin. Et puis, avec le prophète Ézéchiel également, la relation avec le peuple juif, le fait qu'il va y avoir le souffle des quatre vents et qui touche les quatre dimensions de l'univers, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et que ceux-ci sont des vents également qui sont liés à des entités spirituelles qui vont exercer des jugements. Et qu'il faut comprendre au travers de tout cela la dimension de Dieu également et de cette réalité de la rédemption. Donc, on pourra aller très loin. Mais pour l'instant, très rapidement, on va essayer de faire un petit parallèle. On y trouve quoi dans ce livre de la Révélation? Alors, je ne vais pas le développer, mais on y trouve un message qui est adressé à cette église. On est d'accord? Le chapitre 5 de l'Apocalypse nous dit qu'il y a un livre qui est scellé. Quel est ce livre? Le Nouveau Testament n'est pas écrit. Quel est ce livre? Dites-moi, quel est ce livre? C'est pas les épîtres de Jean, c'est pas Jacques, c'est pas l'autre. Non, j'ai rien contre, hein. Mais ce n'est pas écrit. Ah, là on pourrait aller beaucoup plus loin, même dans les écrits rabbiniques. Oui, il y a la Torah. Essentiellement la Torah et les Nevi'im, les prophètes. Alors le livre scellé, vous pouvez le lire à la maison ce soir. Dans le chapitre 6, on va trouver les sept sceaux. Et dans le deuxième sceau, le cheval roux dont on a parlé, qui est Édom, qui est Ézav, qui est le temps d'Édom, le temps que nous vivons. Et on pourrait non seulement multiplier, mais pourquoi encore en rajouter alors qu'un certain nombre de choses auraient suffi dans Apocalypse? Il rajoute, Yohanan, les sept trompettes, les sept niveaux du jugement de la terre et de l'univers. Les sceaux, c'est les fléaux qui vont frapper. Sept trompettes vont parler du jugement, les sept sons inaudibles à l'humain, les sept sons spirituels. Seuls, une catégorie de personnes entendront le shofar à Gadol, le grand son du shofar, uniquement ceux qui ont été dans l'alliance et pas dans la croyance. Ceux qui sont dans l'alliance, pas ceux qui croient en quelque chose dont ils ne savent pas définir. Et tout ceci pour dire également qu'il va y avoir à une autre dimension, des grandes plaies dans le monde, dans l'univers. Avant la révélation du Mashiach, du Messie, avant que ne s'établisse le règne du Messie, avant que la délivrance finale ait lieu, il va y avoir des choses qui vont se passer sur la terre. Nous en sommes actuellement témoins. Alors, nous commençons à voir les choses qui sont dans les débuts. Parce qu'on peut parler du changement climatique, mais qui connaissait le changement climatique? Il y a 100 ans, on n'en parlait pas du changement climatique. De la même façon, on en parlait un petit peu, mais pas comme ça. Et il y a 200 ans, personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui, il y aurait des réfugiés climatiques, que des pans de la Terre, la carte dessinée, se modifieraient. Et qu'il y aurait toutes sortes de perturbations atmosphériques. Et que le climat dans lequel nous sommes habitués à vivre va changer, va se modifier et va nous modifier. Alors, bien sûr, c'est progressif. Mais on voit que depuis les 50 dernières années, il y a une accélération. Et ces 50 dernières années nous amènent quand même à comprendre que derrière, il y a eu l'événement de la Shoah, enfin c'est un peu plus, mais il y a l'événement de la Shoah et l'établissement, le retour des Juifs, de la diaspora sur la terre d'Israël. Et depuis, tout s'accélère. Tout, la technologie, tout s'est accéléré à une vitesse inconnue, au point même que les ingénieurs aujourd'hui n'arrivent même plus à suivre au niveau des évolutions technologiques informatiques. Ils n'arrivent plus à suivre. La technologie va plus vite que la compréhension de l'homme. Et quand on est en train de voir tout ce qui se passe et la sécurité qui est en train de vouloir primer avec les caméras partout, mais c'est un contrôle, hein, il ne faut pas rêver, c'est la localisation, le contrôle, l'identification. Et pour sécuriser, on va aller encore plus loin, les chiffres, mais également les marques. On va devoir être marqué parce que pour rechercher un terroriste, comprenez, pour rechercher un terroriste, dans l'histoire, il y en a toujours eu. On n'est pas au premier attentat quand même en France, ni dans le monde. Mais là, ça prend une ampleur extrêmement différente. Alors, ils vont chercher des technologies, les empreintes digitales, l'iris et d'autres choses. Et depuis plusieurs années, il y a également des marques qui vont être normalement sur la main et le front. Pour la sécurité, parce que les gens vont avoir peur, mais également parce que le gouvernement, et ça c'est obligé, pour pouvoir identifier et essayer de faire en sorte que personne ne passe entre les gouttes d'eau, va tout mettre en œuvre pour que le contrôle total se fasse, même sur Internet. Sur Facebook, la technologie va venir encore renforcée. Juste pour vous donner un aperçu, Apocalypse n'est pas à côté de la plaque, mais il nous montre également que les chiffres que Yohanan utilise ne sont pas des chiffres simplement révélés, inventés par lui-même. Que Dieu est Dieu et qu'il va faire en sorte de faire comprendre que ce qui s'est passé à une petite échelle dans un petit endroit de la Terre, dans le monde, va toucher l'univers entier, mais à une dimension jamais égalée. Et on pourrait dire même maintenant que tout ceci n'aurait eu aucun impact sans cet épisode de l'histoire, parce que on n'aurait rien compris. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? La mort? Qu'est-ce qui va venir? Quelque part, quelque chose? Qu'est-ce qui va venir? Et je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements chez les gens. Et comme on veut aller plus loin, donc cet événement, qui pour moi est celui qui est le plus important, qui est celui de Pessah, parce qu'il est la vraie délivrance messianique. Enlever Pessah de la Torah, même du Nouveau Testament, et vous n'avez aucune rédemption. Aucun salut. Même si vous êtes un bon religieux. Rien. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose où on va tenter de comprendre. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais rester quand même assez light. Les trois premières plaies, elles sont regroupées par groupe de trois. Elles sont classifiées par groupe de trois. Et elles vont concerner, ces trois premières plaies, quelque chose qui, on va le voir, va interroger. Donc je ne vais pas obligatoirement tout développer, je n'aurai pas le temps, je ne pourrai pas le faire, à mon grand regret pour vous et à votre grand regret. Mais il nous faut comprendre que les trois premières plaies sont celles qui sortent de la terre. Donc mettez toujours en parallèle dans votre mémoire la dimension par rapport à l'Apocalypse. Quels sont les fléaux qui touchent que la terre et rien d'autre? Les fléaux qui vont sortir de la terre, qui vont toucher que la terre. De la terre, de l'eau. C'est la catégorie des vermines, des poux et des grenouilles. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas développer. Mais nous comprenons que ça sort de la terre et de l'eau. Que ce ne sont pas simplement des choses qui viennent de l'inconnu. Ça vient de l'existant. Mais dans une dimension différente. Et que les proportions en chiffres de ces grenouilles, de ces poux, dépassent la normalité. Nous vivons avec des poux, des grenouilles, et des vermines. On vit avec ça. Simplement, quand ça devient des millions et des millions et des millions, là, on n'est plus dans quelque chose qui est normal. Et là, tout à coup, cette plaie, elle va marquer. Il est question des grenouilles également dans l'Apocalypse. Les trois autres plaies, donc le deuxième groupe, sont celles qui frappent l'espace de vie des hommes. Ce sont les bêtes sauvages, la peste et les ulcères. Et là, on va dans une autre catégorie. Et en fait, ces trois plaies, on peut dire qu'elles touchent les trois niveaux de la vie de l'homme, qui sont l'espace extérieur. Hein, on vit dans l'espace extérieur. Deuxièmement, elle va toucher la vie économique, les maladies. Les maladies. La peste est une maladie. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles maladies. Et avec les armes chimiques et bactériologiques, il va y avoir d'autres niveaux de maladies. Il va y avoir, avec le changement climatique, des choses qui vont arriver et qui, même médicalement parlant, aujourd'hui, sont des virus inconnus, dont certains chercheurs ne savent pas comment les combattre. Nous avons des nouvelles grippes, des grippes dont on n'a jamais entendu parler dans le passé. Les grippes aviaires, tout un tas de choses qui peuvent devenir des pandémies. Donc, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous expliquer un petit peu, même si c'est bref, un petit peu le niveau. Et il faut comprendre que les grands déficits qui deviennent économiques sont les dépenses de santé. La santé va coûter très cher dans le futur. Pour l'instant, nous bénéficions, et la France est fière de son système sécurité sociale. Mais est-il viable dans le futur? Théoriquement, non. Qui pourra se soigner dans le futur? Déjà aux États-Unis, en Angleterre, Suisse et d'autres pays, les médicaments sont extrêmement onéreux. Donc il faut savoir que toutes ces choses, elles vont nous amener à une réflexion qui va beaucoup plus loin que simplement les Égyptiens ont été frappés. Et quand on parle de la peste, et qu'on parle également bien entendu des virus, il faut savoir que ce que les gens recherchent le plus aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est pas l'amour. Bien sûr que l'amour, ça fait partie depuis un bébé. Enfin, presque. Mais il recherche la santé. On dépense pour avoir la santé avec la chirurgie esthétique, corriger le défaut. Et fais-toi la grève des fesses, et fais-toi la grève des oreilles, décolle, recolle. Fais la grève du botox, le botox, le truc machin. Aïe, 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 aïe. Et les dépenses. Et les gens mettent des fortunes. Mais on ne sait pas ce que ça va amener dans le futur. Et que, je pense, c'est un avis personnel, qu'il sera extrêmement difficile à un moment donné de pouvoir s'acheter des médicaments. Donc, j'en viens à une réflexion. Si on s'en tient au récit de Baïra et de la manière dont Dieu a frappé l'Égypte, mais la manière dont il a préservé les Hébreux, c'est qu'ils n'ont pas été affectés par les fléaux. Alors, vous pouvez aller chercher les grands guérisseurs. Hein, vous aimez bien ça. Hein, les gars qui ont... Ah là là. Et pourquoi? Pour la santé. Peut-être. Ou pour ne pas mourir. Ou pour ne pas souffrir. Quelle est la cause? Quelle est la raison de vouloir rester en bonne santé? C'est la peur de la mort. Le besoin d'exister encore quelques années de plus, un sursis. Le sentiment peut-être parfois de se dire « mais j'ai pas achevé ma mission dans la vie. Trop de choses ont été gâchées. » Ou alors, on est malade pour beaucoup de raisons. Mais là, ce que nous voyons, à la différence d'un certain nombre de choses et de catégories, c'est que là, les Égyptiens sont frappés et que le peuple juif ou les Hébreux ne sont pas frappés. Et ça veut dire, dans les derniers temps, qui sera frappé, qui ne sera pas frappé. Mais il faut retenir ce que je vous ai dit au départ, ce sont ceux qui sont dans l'alliance et pas dans la croyance. Ce sont ceux qui sont enracinés dans l'alliance du Dieu d'Israël. Ceux qui sont véritablement dans l'alliance du Dieu d'Israël et pas simplement liés à des prêcheurs qui prêchent l'illusion et qui amènent l'illusion. Il y a des choses vraies, mais aujourd'hui il y a une telle dérive, mais c'est aussi écrit. Il y a une telle déviation qu'il y a tromperie, qu'il y a des choses qui sont faussées. Et je pense que, véritablement, le fait que Dieu permette que nous ayons parfois des épreuves de santé, c'est pour nous apprendre à avoir la foi. C'est pour nous apprendre aussi à vivre avec. Et que ça a une raison d'être. Même si ce n'est pas toujours évident. Et puis dans un troisième temps, elle nous démontre que à un moment donné, l'Éternel va nous préserver des autres fléaux. Ou alors on va les subir. Parce que ceux qui vivent dans le même monde que le monde, ceux qui appartiennent, soi-disant de manière que purement religieuse à Dieu, mais dont la pratique, la sainteté, la vie cohérente avec le Mashiach, avec le Messie, dans la profondeur de l'étude de la Torah, l'amour de la Bible, l'amour de Dieu n'est pas, mais où on est dans l'émotionnel, ceux-là perdront pied et ils iront se raccrocher vers qui? Les dieux de l'Égypte, les divinités inventées, modernes, que l'on trouve même dans la musique, que l'on trouve dans l'audiovisuel, que l'on trouve dans toutes sortes de choses. Mais je veux aller plus loin. Donc là, on a vu dans ce groupe ce niveau. Mais il y a le troisième, puisque nous avons vu l'ulcère, mentionné, pardon. C'est que là, ce n'est plus seulement l'environnement extérieures et certaines choses qui touchent l'homme. Mais là, l'ulcère, c'est l'intérieur de l'homme. Et là, je me dis, mais les ulcères, c'est quelque chose d'encore présent dans la société d'aujourd'hui. Nombre de gens souffrent d'ulcères, même en meurent. Alors bien sûr, en maladie normale, par rapport à un mode de vie normal, c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie. Ça fait partie de la vie, de la société, ça fait partie de beaucoup de choses. Mais pourquoi les ulcères viennent-ils? De quoi vient l'ulcère? Or, c'est Paul qui pourrait mieux répondre que moi. L'ulcère ne vient pas naturellement. Il est provoqué par un ensemble de choses qui est détraqué dans son être intérieur. Et notamment par l'amertume. Notamment par le non-pardon. Notamment par le manque d'amour. Par la grandeur de l'égoïsme et de l'orgueil. Et ces fléaux frappent déjà naturellement la population. Mais essayez d'imaginer dans une dimension qui touchera celle de la fin des temps où, en comparaison à celle de l'Égypte, ça frappe à la fois des milliers de gens qui vont être frappés. Mais ce n'est pas des fléaux extérieurs, des fléaux intérieurs, liés à des modes de vie. Ça va être des choses quand même terribles. Parce que les ulcères, ça donne des aigreurs de stomac, c'est douloureux, c'est de l'acidité. Et la vie est acide pour beaucoup. Et beaucoup de gens ne guérissent pas de l'acidité. Ils cherchent la bénédiction, ils cherchent la prospérité, ils cherchent des choses qui sont inutiles. Et ils ne recherchent pas l'essentiel. Et Dieu veut nous ramener à ce qui est essentiel. Et dans ce qui est essentiel, c'est justement d'exercer son émouna, sa foi. Le fait de dire « je crois en Dieu », ça ne veut rien dire. Mais si je crois parce que je sais, parce que je le connais, parce que j'ai une relation, parce que je suis dans l'obéissance, mais aussi dans la compréhension de ce qui vient. Parce que j'attends le règne, j'attends le Messie. Aujourd'hui, on n'attend rien, on attend les effusions. On attend des effusions dans la diffusion. Pour donner la confusion. Il fallait que je l'invente. Dans le troisième groupe, il est intéressant parce qu'il parle de la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Et ceci va concerner tout ce qui entoure la Terre, c'est-à-dire les astres, l'atmosphère. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ces derniers temps, on a parlé à Rosh Hashanah de la quatrième lune rouge, hein, toujours cette couleur rouge, le roux avec Edom, et tout de suite tout ce qui s'est produit avec les attentats. Et en même temps, je me suis dit, c'est quand même important. Et je crois que même si je sors un petit peu, il y a quelque chose où je voudrais donner quelque chose à retenir, qui viennent des paroles de Yeshua. Ce n'est pas seulement lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête, car la fin est proche. Il nous le dit. Mais quand viendra la fin? Personne ne sait. Ceux qui s'exercent à des calculs se plantent. Ceux qui essayent de manipuler les chiffres vont droit dans le mur. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les paroles de Yeshua, c'est quand il dit que le ciel et la terre passeront. Mais que ces dvarim, ces paroles, ne passeront pas. Et là, je me suis interrogé. Le ciel, la terre, c'est quand même pas rien. Aïe, 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 c'est quand même pas rien. C'est la planète avec toutes les planètes. C'est l'univers, c'est tout. Et il dit, tout ça, ça peut passer, mais ce qui restera, c'est ce que je dis. Et là, on se dit, mais qu'a-t-il dit le Messie? Et là, l'interrogation réelle de son vrai message, de la rédemption, ce n'était pas simplement de faire du bien à une humanité éprouvée. C'était jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que mon règne vienne. Et les paroles de Yeshua, qui sont indélébiles, doivent résonner pas simplement dans certaines circonstances de nos vies, mais d'aller quand même beaucoup plus loin. Quand on voit la description qu'il donne de Matthieu 24, elle est quand même assez parlante, mais elle est dure à certains égards. Bien sûr qu'elle concerne d'autres personnes. Imaginez, les gens de l'époque pouvaient ne rien comprendre, ne pas se sentir concernés. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire avec une certitude absolue, les médias passeront, les pensées humaines passeront, l'humanisme passera, la philosophie, les commentaires philosophiques passeront. Mais ce qui demeurera, c'est ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit de l'éternité. Et que ceci, personne ne pourra l'enlever. Les hommes pourront essayer d'effacer la foi. Ce que les gens, un ensemble d'hommes et de femmes sont en train de vouloir faire avec la laïcité, c'est d'ôter la foi. C'est d'ôter le fait que nous sommes conscients qu'il y a un Dieu et que nous croyons dans le Dieu qui donne le salut, la rédemption. Mais pas simplement un salut temporaire d'une amélioration de vie sur terre. Si on est sauvé que pour améliorer son niveau de vie sur terre, on est malheureux. On est malheureux. Mais si, c'est pour que nous soyons dans la compréhension de la réalisation du royaume de Dieu, là c'est autre chose. Et je crois que c'est très important parce que il va y avoir trois plaies dans la paracha Bo, et une qui va être les ténèbres, un obscurcissement total. Aucune lumière ne pourra amener de la clarté dans ces ténèbres. C'est ce que le texte dit. L'épaississement des ténèbres, elles vont s'épaissir. Comment des ténèbres vont s'épaissir? Elles vont s'épaissir au point que ça va devenir palpable comme quelque chose. Et même si tu allumes la bougie, ça ne va même pas éclairer. Même si tu mets, allez, la lampe torche halogène, le LED et les portables et tout ce que tu veux, rien, le faisceau lumineux ne traversera pas cette sorte catégorie de ténèbres. Seule la lumière de Mashiach dans nos cœurs perce toutes les ténèbres. Il est la lumière de la vie. Et en même temps, lorsque nous voulons simplement nous attarder sur la dernière plaie, c'est qu'elle nous démontre qui détient le pouvoir de la vie et de la mort. Qui est le maître de la vie, qui est à l'origine de la vie, autrement dit, et qui est à la base de la vie, de l'existence, mais également la raison et le pourquoi de la mort. Parce que c'est l'une des choses qui demeurera, je pense, dans l'humanité bien pensante, l'un des plus grands mystères. Personne ne comprend le sens de la mort par rapport à la vie. Mais nous ne pouvons pas comprendre la mort sans avoir compris la vie. La mort donne un sens à la vie. Beaucoup ont peur de la mort parce qu'ils ont peur de la vie, parce qu'ils ont peur de vivre, parce qu'ils survivent à la vie. Et en même temps, nous voyons que Yeshua nous amène même toutes ces choses qui vont se produire. Il dit quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il est Aleph Tav, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. C'est extraordinaire. L'origine de la vie, du Bereshit et du Tav, de la marque et de la vie par rapport à la mort. Et lorsque nous commençons à rentrer dans cette dimension, il nous indique, et là je simplifie un peu, un certain nombre de choses. C'est que ce qui est important, ce n'est pas la vie physique par rapport à échapper à une mort physique. Aujourd'hui, Il est vrai que c'est ancré dans les mœurs. On veut prolonger la vie en empêchant le vieillissement. On veut rendre l'homme immortel. On veut lui donner une jeunesse éternelle. On essaye de faire toutes sortes d'essais en labo aujourd'hui avec toutes sortes de produits de manipulation génétique pour obtenir quelque chose qui éloigne la mort physique, mais également les marques du vieillissement au niveau des cellules également, car le vieillissement est aussi dans les cellules. Et Yeshua, il nous dit quand même quelque chose que nous devons bien garder à l'esprit parce qu'il est quand même la base de tout par rapport à toutes ces ténèbres. Il dit qu'il est la lumière du monde, mais que celui qui croit en lui, alors pas seulement croire comme on croit à Napoléon, hein, parce qu'on peut croire que Napoléon a existé, parce qu'on nous l'a dit, donc je peux croire que Napoléon existe, ça ne veut pas dire que je suis sauvé. La dimension qui est importante, il dit, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et que celui qui croit en lui, il est passé de la mort à la vie. Lui, il inverse le processus. Il ne te parle pas de ta vie présente et physique sur terre. Il n'est pas en train de te dire une amélioration de vie, aller mieux, alléger finalement tes endettements, te donner davantage de choses matérielles qui te comblent ou qui vont te faire plaisir ou que tu peux t'offrir, mais qui disparaîtront de toute façon. Non, Yeshua, Mashiach, lui, il va dans quelque chose de beaucoup plus direct. Il dit justement que tu passes de la mort à la vie. Et c'est ce que l'on appelle une vraie résurrection, une résurrection de l'âme. C'est quelque chose qui fait que la mort n'est plus en nous et qu'elle nous a abandonnés. Elle est vaincue. C'est-à-dire que même s'il y a mort physique, il n'y a pas mort. C'est ça que Yeshua est en train de dire. La mort physique est une conséquence de la faute. Elle aura lieu. Quelles que soient les technologies, quels que soient les produits que vous pouvez acheter, quelles que soient les choses que vous pouvez aller tester en laboratoire, vous éloignerez peut-être quelques années, vous améliorerez l'apparence, vous améliorerez peut-être un niveau de santé, mais la mort sera quand même au rendez-vous. Mais celui qui, justement, est dans l'alliance du Messie, il passe de la mort à la vie. Et nous devons comprendre, à la lumière de cela, même si je suis loin d'avoir terminé certaines choses, mais si nous voulons comprendre pour aller plus loin, il nous faut comprendre toute la démarche de la Haggadah de Pessah à la lumière du Messie. Car Yeshua, le niveau de la rédemption accomplie, non plus la promesse d'un sauveur, de quelqu'un qui viendrait simplement faire du bien à des hommes, qui les rétablirait, qui délivrerait un peuple gentil d'un peuple méchant. Ça, c'est... Non. Quand Yeshua Mashiach revient, comme Moshe a été élevé et envoyé pour détruire les divinités de Pharaon, les puissances occultes, les puissances fortes de la magie, de la sorcellerie, toutes ces choses, il y en a qui ont peur de ça. Eh bien, Yeshua Mashiach, quand il vient, il va détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, attention, quand vous dites le diable, vous pensez à qui? De celui qui nous fait mourir par l'accusation, dont la faute n'a pas d'expiation. Ah là, c'est une autre dimension. On est dans une autre dimension de la compréhension de Pessah. On est dans une autre dimension de la compréhension de la rédemption et du salut. Parce que là, il s'agit de comprendre et de saisir que ce n'est pas simplement une libération physique, émotionnelle, intellectuelle, voire spirituelle à certains égards, mais que la mort est liée à l'accusation d'une faute qui n'a pas d'expiation. C'est pourquoi il est dit, pour Kippour notamment, que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Alors là, on entre dans l'agneau de Pessah. Là, j'anticipe beaucoup les autres chapitres. Mais la Haggadah, nous faisons tous les 15, il y a 15 étapes de notre délivrance. 15 étapes successives. Alors on peut les faire de manière routinière, mécanique, sans comprendre le sens. Chaque étape, chaque chose qui est vécue dans ce moment est une rédemption. Et que Yeshua est l'agneau de Pessah, mais il est également celui qui a été envoyé comme Moïse. Mais là, il va détruire totalement les puissances spirituelles. Au point que, à d'autres chapitres merveilleux de Yohanan d'ailleurs, et dans le livre des Actes, En Shem Racher, il n'y aura jamais plus d'autres noms. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Et il n'y aura plus jamais d'autre nom que celui de Yeshua pour être sauvé. Il ne suffit pas de le prononcer, ni de dire au nom de Jésus ou de Yeshua pour que ça ait un effet magique. Il faut sortir de la superstition. Il faut aller plus loin, plus haut. Et je crois que c'est l'une des dimensions qui nous amène justement à comprendre les 15 étapes de notre délivrance, de notre liberté. C'est de nous amener à savoir que l'affranchissement dont parle le Messie est l'affranchissement de tout ce qui nous condamne à mort. Mais de tout ce qui met à mort l'être intérieur et qui nous rend malades. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est les modes de vie qui sont le plus responsables de nos maladies que des choses réelles. Parce que la société a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait percé tellement les couches d'ozone. On a des maladies nouvelles. Qui connaissait le cancer il y a 500 ans ? Bon, cancer n'existait pas. Dépression nerveuse, ça existait, ça ? Ça n'existait pas. C'est des maladies de la société nouvelle. Et on a percé, on a fait ça, on a fait des essais nucléaires, on fait ça, et on détruit, on piétine la nature, et pour la productivité de l'argent, la terre ne produit plus rien. Ça aussi, vous allez voir. Et il y a un ensemble de choses, il y a des réalités. Les modes de vie. Mais celui qui a un mode de vie de la Torah, celui qui a une pratique, pas seulement une croyance, celui qui a une vie, un mode de vie, en Yeshua. Alors vous pouvez toujours dire, oui, je suis sous la grâce. Ben, t'as raison, mais viens pas demander la prière pour guérir. Et va pas nulle part non plus la demander. Parce que c'était, voilà, moi je suis clair, net, carré, rectangle, pas rond. Il nous faut aller plus loin. Yeshua, dans le temps du Seder de Pessah, nous amène à ce qui sera certainement une étude ultérieure, à la dimension des quatre coupes de délivrance qui sont liées à « j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu et je serai leur Dieu ». Les quatre coupes de Pessah, les quatre coupes de la rédemption, dont Mashiach, à un moment donné, va élever celle qui est la coupe de la rédemption, la troisième coupe, après le céder, après le souper, après le repas, et pas après un temps de louange. Voilà, je l'ai dit. Et que, à ce moment-là, il va accomplir. Mais dans le terme accomplir, tout ne veut pas dire que c'est fini, que maintenant il n'y a plus rien à rajouter, que voilà, c'est fait, c'est terminé. Non, dans le terme accomplir en grec, il signifie justement dans la vue de la plénitude de l'accomplissement. dans l'accomplissement à venir. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va revenir vers ses disciples et leur parler autour de la table, il va leur dire « Je ne boirai plus, je ne boirai plus ». Et regardez l'importance. « Je ne boirai plus du fruit de la vigne, de cette vigne, je ne boirai plus de ce vin, je ne ferai plus le céder de Pessah, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il ne dit pas son royaume. Il ne dit pas autre chose que Pessah, dans la troisième coupe, va nous amener à comprendre que cette coupe ne pourra être rebu que le jour où il sera à nouveau dans le royaume. Et tant que nous ne comprenons pas les événements actuels par rapport à cela, nous passons à côté de l'essentiel. On peut prétendre une connaissance, j'ai rien contre, on peut vivre comme on veut, mais il y a des choses qui vont accélérer les maladies, les dysfonctionnements, les mal-êtres, les maladies mentales, les dérèglements psychologiques, psychiques, identitaires, parce que les modes de vie se détraquent. Et même chez les croyants, la haine augmente, la méchanceté augmente, l'absence d'unité augmente, l'absence de solidarité augmente, et l'égoïsme est à son plus haut niveau chez les croyants, au lieu de donner, d'aimer, d'être solidaire, de pardonner. Qui arrive à pardonner aujourd'hui ? Vous êtes en train de vous en vouloir parfois à des choses qui n'en valent même pas la peine, qui sont terrestres et matérielles, et qui n'ont que pour but que votre amour propre. Et vous êtes là en train de gémir et de plaindre, et de geindre, pardon. Et quelque part, on est là, Dieu, pardonne-moi tout, tout, tout. Mais on est incapable, aujourd'hui, de se regarder en face. J'ai un dilemme, tu as un dilemme, nous avons un dilemme, nous avons un problème. Ah non, qu'est-ce qu'on fait ? On fait lachonara. Les dieux de l'Égypte sont présents dans ton cœur. Et lachonara, c'est quoi ? Et tu prends des gens, et tu les prends en otage, et tu commences à parler du mal de l'autre, et tu le dénigres, et tu détruis son identité spirituelle aussi. Tu détruis le relationnel, tout, et de façon à ce qu'il soit évincé. Et puis, après, t'es victime. Ah oui, t'es une belle victime. Ah, t'es une chouette victime. Et derrière, ce qu'il faut voir, c'est que l'amertume et toutes ces choses donnent des maladies spirituelles. Alors, je ne vais pas entrer, à cause de l'heure, dans les niveaux des maladies spirituelles. Un jour, je rentrerai. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Mais il y a des maladies spirituelles. Certaines ne sont pas très graves. Mais certaines sont très graves. Et elles aggravent la condition de vie de l'être. Au point que les prières ne sont jamais entendues. Que le mode de vie dans l'environnement, où normalement on devrait le réparer, il se détraque. Et les gens nous quittent. Les gens nous abandonnent. Les gens nous délaissent. Et ce que, finalement, on avait fixé comme objectif de recherche pour le bonheur et même avec le Seigneur, on ne le trouve pas parce qu'on brise les liens de l'unité. Parce qu'on brise le lien spirituel qui nous unit à la coupe du salut, à cette dimension du royaume, du Malchut HaElohim, du royaume de Dieu. Et que, quelque part, la difficulté pour beaucoup et nombre de gens de pouvoir arriver à se dire en face les choses, mais aussi dans un but de pardon et de réconciliation, est extrêmement difficile. On veut qu'on nous rende justice. Ah, qu'est-ce que vous pensez ? C'est moi, j'ai raison. Et lui, il faut qu'il ait tort, ou il est tort. Ah, il faut éjecter, il faut faire ça, hé oh ! Non mais, moi j'ai pas le courage même de lui dire en face la chose. Mais toi tu vas aller lui dire, tu vois. Je viens te voir habillé pour vomir et dégueuler sur quelqu'un. Après mon vomissement, tu te débrouilles. Mais je vais te dire ce qui serait bien, Rabbi. C'est que tu le mettes dehors, tu vois. Hein? Parce que moi, je veux rester, tu vois. Je veux avoir la première place. Je veux être bien en vue. Tu mets d'or. Et pourquoi tu ne le mets pas, toi? Tu ne lui as même pas parlé. Et pour aller plus loin, la démarche, même de la prière, est tachée. Ce serait, dans la réalité, d'aller vers la personne. S'expliquer. Ouais, ça peut être frontal, et alors? Même si tu prends une gifle, un coup de poing, qu'est-ce que c'est? Tu perds une dent, et alors? Il vaut mieux perdre une dent et avoir la vie. Pourquoi t'as la trouille? Mais dans le but, non d'accuser, parce que ce que je vous ai dit, c'est ça qui tient dans la mort. C'est ce qui tient l'âme emprisonnée de la mort et du séjour des morts. Dans le but, dans l'intention, pardonner. Et là, t'es grand. Autrement, t'es insignifiant. T'es comme tout le monde. T'es un Égyptien à un rang un peu plus élevé que l'Égyptien normal. Mais t'es pas l'Hébreu que Dieu va protéger. Et vous voyez tous ces dysfonctionnements nous amènent à justement comprendre que toutes ces choses qui touchent justement la dernière plaie étaient liées au premier-né, Béchor. Et que ça, ce n'était pas insignifiant que c'était la dernière plaie. Celle-ci touchait réellement le concret de l'existence. Elles veulent démontrer la puissance de Dieu sur tous les niveaux de l'univers, de la vie des hommes aussi, parce qu'il est éternel. Et que les forces et les pouvoirs de la temporalité, qui sont des forces et des pouvoirs, et il faut le savoir, et vous combattez plus la temporalité que pour ce qui est éternel. Parce que, quelque part, les forces, les pouvoirs et les puissances qui sont liées à cette temporalité ne sont que les forces occultes, ne sont que des forces de spiritisme, les forces de sorcellerie, etc., de la magie, machin. Et vous êtes tous, enfin tous, je ne peux pas parler pour tous, mais presque tous, toujours en train de combattre ces niveaux de temporalité. Mais vous ne combattez pas ce qui vous amène à la mort. Et vous croyez que, quelque part, les autres maladies, les dérèglements mentaux qui prennent accès dans l'être humain au travers de force et de puissance qui vont amener l'extinction de la vie et de la vie, même de la prière, de la vie, de la respiration, de la vie de l'âme en Yeshua, Mashiach, qui sont uniquement liés par rapport à du pardon, à du bon sens, à un ensemble de choses, et vous allez combattre des niveaux, des choses qui n'ont pas de rapport. Et vous croyez que tous les dérèglements de votre vie ne sont que occultes, liés à la sorcellerie, à la magie. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Ce que Dieu a combattu en Égypte, c'est la peur de la croyance dans la superstitieuse. Et quand il dit, je vais te faire connaître qui est le Dieu d'Israël, eh bien, c'est à ce moment-là. Alors, je vais conclure avec ça, en disant que si nous voulons avoir une vraie compréhension, même si j'ai été très superficiel, si nous voulons avoir une vraie compréhension, il faut rétablir les choses dans l'ordre. Ça, c'est le seder, ça veut dire ordre. Il faut avoir un ordre, il faut avoir une cohérence d'action, mais également d'amour. Et de retrouver le sens d'une vraie Keïla, pas l'illusion d'une Keïla, pas l'idéologie d'une Keïla, pas le de prier pour avoir la Keïla parfaite où tout le monde est gentil avec moi. C'est ça la Keïla parfaite, tu vois. La Keïla parfaite, c'est pas ça. C'est pas que tout le monde y soit gentil avec toi, qu'il soit aux petits soins, qu'il te téléphone toutes les deux heures. Quoi, hein, qui vient te prendre la température à tout moment, ah, 37,5, ça va, attention, on ne va pas à 38, et puis qui est là, et qui est toujours Ça, c'est, voilà, ça, c'est la Kehila idéale. Tu rêves ou quoi? Les gens ne le font pas pour ses enfants, tu crois qu'on veut le faire pour quelqu'un? Il y a quelque chose où nous devons rétablir l'ordre de Dieu par rapport aux principes du monde qui est l'Égypte. Ces principes de vie, ces modes de vie, ces Yafet, c'est la beauté, c'est la séduction, c'est la sensualité, c'est toutes ces choses qui sont liées à des domaines qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent et qui nous séparent. Et en même temps, Dieu construit à Goshen avec des esclaves, des gens qui n'ont pas de valeur, des gens qui sont considérés comme étant les moins des moins dans toute l'humanité. À l'époque, c'était terrible. Et c'est pourquoi Dieu est venu les délivrer, mais il en a fait le peuple le plus important dans tout l'univers. Et aujourd'hui, que vous aimiez les Juifs ou pas, ça ne me dérange pas, c'est comme ça. Il a fait de ce peuple son peuple. Il a fait de cette terre qu'il leur a donnée le lieu de son trône. Le lieu où Mashiach viendra. Et là où il règnera, et là où il rendra justice à toutes les nations. Alors, il est clair que si nous voulons comprendre même le sens de ces plaies, sans aller trop loin, les Égyptiens vénéraient quand même des divinités. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand j'ai parlé des pouvoirs occultes et tout, tout cela est lié à des divinités. Certains ne connaissent même pas les divinités qui ont dominé la France. Ce n'est pas la peine de les chercher, c'est inutile. Mais il faut savoir que c'est toujours lié à ça. Le mode de vie est lié à la croyance, qui à l'époque, en France, était païenne. Et ce n'est pas parce que Clovis est devenu le premier roi, amenant le christianisme, qu'il a réglé le problème. Alors ces divinités, ce sont celles qui règnent sur la terre, qui sont devenues Baal, Astarté, on pourrait donner d'autres noms, liées à la fertilité, la terre. Il y a celle de l'atmosphère, et il faut se rappeler simplement l'une des choses qui m'a toujours interpellé et que je n'ai pas vraiment compris. Moi, je l'avais mis un peu sur le plan écologique, sur le plan... quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est une chose. Mais dans Éphésiens 2:2, qu'est-ce qu'il dit? Contre les autorités, les princes de la puissance de l'air. Les princes de la puissance de l'air. Alors moi je me suis dit, c'est qui celui-là? Alors il y en a qui vont dire c'est Satan, d'autres vont en même temps prier à côté, ils vont dire le diable, ils vont lui donner le même nom. Mais ce n'est pas la même fonction. Le prince de la puissance de l'air, c'est celle des astres. Et donc, la délivrance va commencer avec le prochain mot qu'on a vu, qu'on n'a même pas touché encore, c'est Vaera. Et étant donné l'heure, je dois conclure. Quand on parle au cœur, on parle au cœur. Seules les paroles du cœur pénètrent le cœur, disent nos sages. Le reste n'est que discours. Et il nous faut entendre maintenant quelque chose que je rends indépendant, mais tout dans la continuité de ce que j'ai compris dans l'interpellation de Dieu. Non seulement la France, l'Assemblée, mais les gens individuellement, en se réunissant de manière collective, doivent ou devraient entrer dans une dimension de teshuva, de repentance. pas simplement par rapport au peuple juif, dans son histoire, mais à son propre état, par rapport à son propre vécu d'aujourd'hui, à son mode de vie, à la manière dont il vit Dieu, même dans son assemblée, la manière dans les relations dont Dieu est présenté. On a l'impression des fois d'être dans un truc à marionnette, dans un truc de foire. Moi, je n'ai pas le sentiment des fois d'entrer dans des lieux où il y a le Dieu de la sainteté, où l'esprit de sainteté domine, où la pureté du cœur, la profondeur du cœur, dans la prière, dans tout ce qui s'amène à Dieu. J'ai l'impression que tout ça, c'est devenu banal. Que aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'onction, le bien-être, c'est être zen. 3 jours après, ils ont perdu le zen. Alors ils deviennent Jojo. Il nous faut retrouver. Et il est clair que c'est quelque chose dans lequel je souhaiterais qu'on en rentre dès qu'on en aura la possibilité. C'est vraiment réparer à l'intérieur. Comment réparer l'extérieur? C'est l'intérieur répété. C'est vos relations. C'est pas ma relation uniquement avec vous. C'est pas votre relation avec moi. Si vous avez quelque chose contre moi et que quelque chose est pété entre nous, ou on le règle, ou bye bye. Mais chacun assume sa vie. Et d'un autre côté, il n'est pas normal qu'en ayant vécu des années qui pourrent, on n'ait pas encore compris la démarche, qu'on n'ait pas encore appliqué et qu'on n'ait pas encore mis en pratique un certain nombre de choses qui, intellectuellement, ont été acquises. Mais qu'il y ait maintenant des démarches spirituelles, qu'il y ait maintenant des actions pour que, justement, il y ait quelque chose qui se répare. Une communauté forte, c'est ce qui va pouvoir résister, c'est le Goshen, face à la laïcité, face à Daesh, face à la peur, face au dérèglement. Mais les dérèglements mentaux, il va y en avoir de plus en plus. Des êtres désincarnés, psychologiquement, ça va augmenter. Des êtres de plus en plus désincarnés parce que trop de souffrance, ça va augmenter. Et il faut quand même le voir. Et il faut quand même le comprendre. Qu'à un moment donné, quel médecin pourra guérir ça? Les pilules, les asiles, les hôpitaux psychiatriques, les piqûres qui prolongent le sommeil, le suicide, le désespoir qui va amener le suicide, qui va soigner? Les super-onctions, qui va soigner? Qui va réincarner l'être? C'est important d'avoir une réflexion. Je sais que certains, ça leur passe, par-dessus la tête, ils sont dans d'autres trucs. Mais il y a des êtres qui sont profonds et qui sont vrais. Et qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin de réviser son cœur, de le voir à la lumière de la Chassidut, mais aussi à la lumière de Mashiach, dans un mode de vie. Parce qu'on a un commandement à respecter. Un commandement que Yeshua nous a donné, qui est le plus haut commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et nous aimer, ça veut dire plus que simplement nous tolérer. Hein. Tolérer un espace où je veux bien que tu sois 2 chaises plus loin, mais pas tout près. Et même si tu pouvais aller plus loin, et même si tu pouvais ne pas venir la semaine prochaine, ça. Éternel, mon Dieu, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que toi.